Le conte des deux arbres. Eh bien, louons Dieu pour le beau temps aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous ont prié pour que le Seigneur retienne la pluie aujourd'hui. Et, je ne sais pas pour vous, mais il me semble que cet été a été particulièrement pluvieux. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'il a plu davantage cet été que les années précédentes. Je me souviens qu'il y a quelques étés, il faisait très sec, et les gens priaient pour que la pluie vienne. Ce matin, je voudrais que nous regardions un passage de la Bible qui parle d'humidité et de sécheresse, en relation avec les arbres. Quand vous faites l'église en forêt, vous devez prêcher sur des versets bibliques parlant d'arbres, et heureusement, la Bible en est plein. Mais ce matin, je veux que nous réfléchissions à la pluie et à la sécheresse en ce qui concerne votre vie spirituelle. Comme nous le verrons aujourd'hui, vous pourriez vivre une sécheresse spirituelle ce matin parce que vous n'avez pas encore trouvé la source de la vie. Ou bien, vous pourriez connaître une sécheresse spirituelle simplement parce que c'est la saison de votre vie en ce moment. Alors, quelle est la solution? Où est le Seigneur lorsque la pluie ne tombe pas? Eh bien, c'est ce que j'aimerais que nous examinions. Alors, si vous avez une Bible, veuillez l'ouvrir avec moi à Jérémie 17. Si vous ne savez pas qui est Jérémie, il était un prophète du Seigneur vers 600 avant Jésus-Christ. Au moment de son ministère, le royaume du Nord, avec ses 10 tribus, était déjà tombé aux mains des Assyriens. Et Dieu a envoyé Jérémie pour parler au royaume du Sud, composé des tribus de Juda et de Benjamin. Dieu a utilisé Jérémie pour avertir une dernière fois le royaume du Sud, avant qu'il ne tombe à son tour entre les mains de la nation de Babylone. Il est connu sous le nom de prophète pleureur, car, malgré ses avertissements, malgré ses appels à la repentance pour Juda, personne ne l'a écouté. Néanmoins, Jérémie est resté fidèle au Seigneur. Il a accompli le ministère auquel Dieu l'avait appelé. Au début du chapitre 17, Jérémie les avertit du danger d'adorer d'autres idoles à la place du Seigneur Dieu, ce qui nous amène au verset 5. J'ai mentionné que j'ai récemment commencé un cours sur le conseil biblique. Et ces versets du chapitre 17 ont constitué le cadre de mes études. J'ai donc vécu et respiré ces versets de Jérémie 17 au cours des derniers mois, et c'est une joie de les partager avec vous aujourd'hui. Lisons-les ensemble. 5. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, et détourne son cœur du Seigneur. 6. Il est comme un buisson dans le désert. Il ne voit pas venir le bonheur. Il habite des lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. 7. Béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur et dont le Seigneur est l'assurance. 8. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint pas la chaleur quand elle vient. Ses feuilles restent vertes. Dans l'année de la sécheresse, il ne se rend pas, et il ne cesse de porter du fruit. Ces versets nous présentent deux chemins différents, illustrés par deux arbres différents. L'un conduit à la vie et à la bénédiction. L'autre conduit à la sécheresse et à l'isolement. Examinons ces versets un à un pour comprendre l'illustration de Jérémie ici. 5. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, et détourne son cœur du Seigneur. C'est un thème récurrent que nous voyons dans la Bible. Il y a une voie qui conduit à la bénédiction et à la fécondité. Et il y a une voie qui conduit à la malédiction et au vide. Il y a un chemin qui mène à des conséquences positives et un chemin qui mène à des conséquences négatives. Jérémie décrit d'abord la voie négative.
Nous pourrions penser que le contraste serait entre une personne qui a la foi et une personne qui n'a pas la foi. Mais nous voyons ici que la personne du verset 5 a la foi. La personne du verset 5 croit. La personne du verset 5 a confiance. Mais en qui a-t-il confiance? A-t-il confiance dans le Seigneur? Non, il se confie en l'homme. Il se confie en lui-même. Il ne compte pas sur la puissance de Dieu. Il compte sur sa propre force. En d'autres termes, tout le monde a la foi. Tout le monde croit. Tout le monde fait confiance. La différence, c'est l'objet de notre foi, l'objet de notre confiance. Te fais-tu confiance à toi-même? Te confies-tu dans ta propre force? Ou te confies-tu dans le Seigneur? Jérémie dit que tu ne peux pas faire les deux. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Soit tu fais confiance à Dieu, soit tu mets ta confiance dans l'homme. Il dit que la personne qui se confie en elle-même, qui se confie dans ses propres ressources, détourne son cœur du Seigneur.
Il y a quelques années, le magazine Forbes a mené une étude. Ils ont étudié certaines des personnes les plus riches afin de voir combien d'entre elles sont arrivées au sommet par leurs propres moyens et combien ont reçu de l'aide en cours de route. Et la majorité de ces personnes riches étaient autodidactes. Ce qui signifie qu'elles n'ont pas hérité de leur richesse, mais qu'elles ont travaillé pour l'obtenir, qu'elles l'ont gagnée et qu'elles ont construit leurs propres empires. Et d'une certaine manière, c'est impressionnant. Certaines personnes pourraient lire cela et penser, c'est ça, le rêve. Réussir tout seul et ne dépendre de personne. Eh bien, cela peut fonctionner dans le monde des affaires. Mais le verset 5 nous dit que cela ne fonctionne pas avec Dieu. L'autosuffisance est peut-être valorisée dans le monde des affaires. Mais l'autosuffisance est une malédiction dans le monde spirituel. Parce que tu ne peux pas te confier en toi-même et en Dieu en même temps. Seul Dieu peut satisfaire ton âme. Peu importe avec quoi tu essaies de remplir ton âme, les ressources de ce monde, les choses de ce monde, la célébrité, l'argent, le statut, le pouvoir, l'image, quoi que ce soit. Aucune de ces choses ne peut satisfaire ton âme. Tu ne peux pas satisfaire ton âme. Seul le Seigneur le peut. Mais cela n'empêche pas les gens d'essayer. Comment savoir si tu te confies en toi-même et non en Dieu? Le meilleur test, c'est lorsque les épreuves de la vie arrivent, lorsque les moments difficiles surviennent. Quand ils arrivent, où vas-tu? Vers qui te tournes-tu? Te tournes-tu vers le Seigneur pour demander de l'aide? Ou essayes-tu de prendre le contrôle? Essayes-tu de gérer la situation toi-même? Cherches-tu les ressources du monde pour t'en sortir? Lorsque la Bible parle de la chair, comme nous le voyons ici au verset 5, elle parle de ce que nous faisons en dehors de Dieu. Agir selon la chair, c'est agir par notre propre force au lieu de la force de Dieu. C'est compter sur toi-même au lieu de compter sur le Seigneur. Mais ce n'est pas le chemin de la bénédiction. Jérémie dit, « Maudit soit l'homme qui fait confiance à la chair. Il y a une voie qui paraît droite à l'homme, mais à la fin, elle mène à la mort. » Cette personne pense qu'elle prend le contrôle de la situation. Mais en réalité, la situation empire. Leur cœur se détourne du Seigneur.
Jérémie les compare à une certaine sorte d'arbre. Il est comme un buisson dans le désert. Il ne verra pas venir le bonheur. Il habitera dans les lieux brûlés du désert, dans une terre salée et sans habitants. À quel genre d'arbre Jérémie compare-t-il la personne qui compte sur elle-même? À un buisson dans le désert. Un désert, par définition, est une terre de sécheresse. Il ne pleut pas beaucoup, donc il n'y a pas beaucoup de végétation ni de vie végétale. Autrement dit, peu de choses poussent dans un désert, car il y a peu ou pas d'eau. Il arrive parfois que l'on voit un buisson dans le désert, comme celui que Jérémie mentionne ici. Un buisson n'est pas grand, comme les arbres que nous voyons ici dans la forêt. Ils sont généralement petits avec beaucoup de bois. Ils luttent pour survivre, surtout dans une terre où peu de choses poussent. C'est l'image donnée ici au chapitre 17. Le buisson se trouve au milieu du désert. Il ne semble rien y avoir d'autre autour. Il est isolé. Il est seul. Il est dans une terre inhabitée. Et il fait sec. Il est desséché. Il n'est fait mention d'aucune eau. Il n'est fait mention d'aucune source de nourriture. Tel est le sort de ceux qui se confient en eux-mêmes et non dans le Seigneur. Voilà l'image de ceux qui placent leur confiance dans le monde et non dans le Dieu vivant. C'est solitaire, c'est sec, et ils n'en savent aucun beau fruit. Ce n'est pas une belle image, c'est une voie, c'est un chemin, c'est un certain type d'arbre. Mais le verset 7 nous propose une voie plus excellente. « Béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur, dont l'espérance est le Seigneur. » Le chemin de la bénédiction est celui de la personne qui met son espérance, sa foi et sa confiance, non pas en elle-même, non pas dans sa propre force ou puissance, non pas dans la chair, mais dans le Seigneur. Cela est même répété ici dans ce verset, pour insister, « Béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur. » À quel type d'arbre cette personne est-elle comparée? Il est comme un arbre planté près de l'eau, qui étend ses racines vers le courant, et qui ne craint pas quand la chaleur vient, car son feuillage reste vert. Il ne s'inquiète pas dans une année de sécheresse, et il ne cesse de porter du fruit. La personne qui se confie dans le Seigneur est comme un arbre planté près de l'eau. Quel contraste! Quelle différence! La personne qui se confie en elle-même est comme un buisson dans le désert. Aucun signe d'eau, aucun signe de vie. Mais la personne qui fait confiance à Dieu est comme un arbre planté près de l'eau. C'est un arbre vivant. On peut imaginer un arbre imposant, comme ceux de cette forêt, avec de nombreuses branches, qui porte beaucoup de fruits. Mais le secret du succès de l'arbre, comme le dit un auteur, n'est pas sa force, mais sa source. En d'autres termes, l'arbre est fort parce qu'il est si proche de l'eau. Le verset 8 dit que ses racines descendent près de l'eau. Cela nous rappelle le psaume 1, versets 1 à 3, qui dit « Béni soit l'homme » qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur, et médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Encore une fois, l'image est la même. L'arbre béni est celui qui est proche de l'eau. Le secret du succès de l'arbre n'est pas sa force, mais sa source. L'arbre prospère parce qu'il est proche de l'eau, la source de la vie. De la même manière, le chemin de la bénédiction Le chemin de la vie consiste à être proche de Dieu. C'est en étant proche de la source de la vie. Plus l'arbre est près de l'eau, plus il est fort. Plus tu es proche de Dieu, plus tu mets ta confiance en lui, plus tu seras fort. Jésus a repris ces thèmes lorsqu'il est venu sur terre. Dans Jean 7:37-38, il a dit « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se leva et s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » 38. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Dans Jean 4:13-14, lorsque Jésus rencontra la femme samaritaine au puits, il lui dit « Quiconque boira de cette eau, du puits, aura encore soif. » 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant en vie éternelle. Jésus accomplissait la prophétie d'Ésaïe qui disait « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, et je répandrai de l'eau sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre sèche. Jésus est venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Jean 7 dit « Celui qui croit en Jésus, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Autrement dit, Jésus est venu vous sauver du désert aride et solitaire. Jésus est venu vous sauver de la confiance en votre propre puissance, en votre propre force. Jésus est venu pour que vous comptiez sur lui. Le salut vient du Seigneur. La vie éternelle découle de la foi en Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu est entré dans notre monde. La parole s'est faite chair et a habité parmi nous. En lui était la vie. Jésus est venu prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il est venu prêcher le pardon des péchés. Mais au lieu de le recevoir, le monde l'a rejeté. Au lieu de recevoir l'eau vive de Jésus, au lieu de recevoir son salut et de croire en lui, ils l'ont rejeté. Ils ont préféré leur arbuste dans le désert à la place. Et ils ont envoyé Jésus mourir sur un autre type d'arbre. Il a été envoyé à la croix pour mourir. Mais la vie de Jésus ne lui a pas été enlevée. Il a donné sa vie. 1 Pierre 2:24 dit que Jésus a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Sur le bois, sur la croix, Jésus n'est pas mort pour ses péchés, car il n'en avait pas. Non, il est mort pour nos péchés. Il est mort afin que nous vivions. Il est mort afin que nous soyons pardonnés de nos péchés et rétablis dans notre relation avec Dieu. Pour nous rapprocher de l'eau, afin que nos péchés puissent être lavés. Mais cela vient en croyant en Jésus. Cela vient en le recevant par la foi. Cela vient en arrêtant d'essayer de faire les choses par votre propre force et puissance, et en comptant sur lui. Cela vient en mettant votre confiance en Christ et en Christ seul. C'est en reconnaissant que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, que vous avez besoin de l'eau vive que seul Jésus offre. Par la foi en Jésus, il nous fait sortir du désert sec et stérile et nous plante près des ruisseaux d'eau vive. Il est l'eau pour nos âmes assoiffées. Et il n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais après 3 jours, il est ressuscité des morts et a triomphé du péché et de la mort une fois pour toutes. Ce n'est pas un hasard si dans le dernier chapitre du dernier livre de la Bible, nous voyons à nouveau ces images. Apocalypse 22, 1 à 2. Dit, puis l'ange me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place de la ville. De chaque côté du fleuve se trouvait l'arbre de la vie, produisant 12 récoltes, donnant son fruit chaque mois. Dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, il y a un fleuve qui coule du trône de Dieu, au milieu de la cité céleste. Nous expérimentons maintenant cette eau vive, et nous l'expérimenterons pour toute l'éternité. La bénédiction continue de couler, la bénédiction continue d'avancer. Alléluia.
C'est notre avenir, c'est notre espérance. Mais je voudrais revenir un instant au verset 8. Laissez-moi le relire. 8. Il est comme un arbre planté près de l'eau, qui étend ses racines vers le courant. Il n'a rien à craindre quand vient la chaleur. Son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il ne redoute rien. Il ne cesse de porter du fruit. Nous avons parlé d'être planté près de l'eau. Nous avons parlé des racines. Mais il est aussi dit que cette personne n'a rien à craindre quand vient la chaleur. Cet arbre est près de l'eau, il a des racines solides, mais il n'est pas à l'abri de la chaleur. La chaleur atteint malgré tout l'arbre. L'arbre est fort, mais il subit tout de même les effets de la nature. Et c'est aussi vrai pour nous, en tant que croyants. Nous sommes sauvés par la grâce, par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes rachetés. Nous sommes choisis. Nous sommes renouvelés. Mais nous vivons encore dans un monde pécheur et brisé. Nous expérimentons encore la chaleur, pour ainsi dire. La chaleur peut représenter tant de choses pour nous. La chaleur peut être la perte de votre emploi. La chaleur peut être l'échec à un examen. La chaleur peut être la perte d'un être cher. La chaleur peut être le stress financier. La chaleur peut être le stress dans vos relations. La chaleur peut être des moments de découragement. La chaleur peut être un conflit dans votre famille. La chaleur peut être un combat contre le péché. La chaleur peut être le fait d'être débordé. La chaleur peut être n'importe quoi. Tout ce qui pèse sur vous. La chaleur, c'est la vie qui vient à vous. La chaleur, c'est tout ce qui, pour ainsi dire, vous pousse à bout. La chaleur peut vous tenter de retourner à ce buisson dans le désert. La chaleur peut vous tenter de résoudre le problème par votre propre force et vos propres moyens, au lieu de faire confiance au Seigneur. La chaleur. C'est la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Le verset 8 dit que la chaleur viendra. Mais le verset 8 dit aussi que vous n'avez pas à craindre lorsque la chaleur vient. Parce que vous êtes planté près de l'eau. Parce que vos racines sont profondes en Christ. La chaleur viendra, mais vous n'avez pas à avoir peur. Quelle est la chaleur pour vous en ce moment? Quelle situation affrontez-vous actuellement dans votre vie? Quelle pression pèse sur vous en ce moment? Quelle que soit cette chaleur, la tentation sera d'essayer de la résoudre par vous-même, de vous fier à vous-même. Mais cela, c'est la chair. L'Esprit de Dieu vous appelle à lui faire confiance. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Malgré la chaleur. Le feuillage reste vert, parce que l'arbre est planté près de l'eau. Les racines s'enfoncent profondément. Ainsi, l'arbre survit à la chaleur. Mais nous voyons aussi au verset 8
que l'arbre survit pendant la sécheresse, quand il n'y a pas de pluie. C'est un rappel que même en tant que croyants, nous expérimenterons des temps de sécheresse, pour ainsi dire. Il y aura des moments où nous ne ressentirons peut-être pas la présence de Dieu aussi fortement que d'autres fois. Il y aura des moments où nos prières sembleront plus faibles que d'autres fois. Il y aura des moments où la lecture de la Bible semblera plus difficile qu'à d'autres moments. Il y aura des moments où servir dans l'Église semblera être davantage un travail qu'à d'autres moments. Peut-être que vous avez l'impression de traverser en ce moment une saison de sécheresse spirituelle. Vous savez que le Seigneur est là, mais vous ne le ressentez tout simplement pas aussi fortement qu'à d'autres moments. Et vous vous demandez, combien de temps cela va-t-il durer? Combien de temps cette saison de sécheresse va-t-elle durer? Je ne sais pas. Mais au verset 8, la sécheresse a duré au moins un an. Je ne dis pas que vous allez traverser une saison de sécheresse pendant plus d'un an. Je prie pour que ce soit moins long. Mais le verset 8 dit que l'arbre ne s'inquiétait pas pendant l'année de sécheresse parce qu'il était encore planté près de l'eau. Un auteur dit, un arbre qui a la vie et de la nourriture, croît jusqu'à sa perfection. Pourtant, il ne grandit pas toujours, surtout en hiver. Les chrétiens ont aussi leurs hivers, mais parce que Christ vit, le croyant vit aussi. Il y aura des saisons de sécheresse spirituelle, mais en tant que croyants, nous continuerons à porter du fruit parce que nous sommes connectés à Christ, le 7. En d'autres termes, ce n'est pas parce que vous vous sentez sec que vous êtes mort, car vous ne l'êtes pas. Vous êtes vivant en Christ, alors continuez à faire les choses que vous faisiez au début. Continuez à faire confiance au Seigneur, même si vous ne ressentez pas sa présence aussi fortement qu'avant. Continuez à passer du temps dans sa parole. Souvenez-vous du psaume 1. Heureuse la personne qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Continuez à prier, même si le signal du wiri semble faible. Je me souviens que l'un des moments les plus secs spirituellement a été l'année avant que nous ne partions pour la Pologne. Dieu nous avait appelés en Pologne. Nous faisions des préparatifs. Nous partagions la vision avec nos amis et notre famille. Nous demandions aux gens de prier. Toutes ces choses spirituelles se produisaient. Mais à l'intérieur, je me sentais sec. Quand je priais, je savais intellectuellement que Dieu écoutait. Mais pour une raison ou une autre, je ne le ressentais pas ainsi. Cette semaine, j'ai feuilleté un vieux journal de cette époque et j'y avais écrit « J'ai l'impression que, lorsque je prie, je suis assis dans une pièce vide avec une vitre réfléchissante. Je sais que Dieu est de l'autre côté de la vitre et qu'il m'entend. Mais je ne ressens tout simplement pas sa présence. C'était une période difficile, mais avec le recul, ce n'était qu'une saison. Les saisons vont et viennent. À un certain moment, le Seigneur m'a rendu la joie de mon salut. Il m'a béni par sa présence de manière significative. Dieu ne m'avait jamais quitté. Il était là tout le temps. Ce n'était qu'une période de sécheresse pour moi. C'était une saison de sécheresse pour moi. Mais les racines étaient toujours profondes. Colossiens 2:6-7 dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Christ Jésus le Seigneur, marchez en lui, étant enracinés et édifiés en lui, affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondant en actions de grâce. Des racines profondes vous permettent de traverser les saisons de sécheresse. Regardez autour de vous ces arbres ici, dans la forêt. Ils ont connu toutes sortes de temps. Ils ont résisté à de forts vents. Ils ont connu la chaleur. Bon, nous sommes en Pologne, donc pas beaucoup de chaleur. Et ils ont connu des périodes sans pluie, des temps de sécheresse. Mais ils tiennent toujours debout, parce que leurs racines sont profondes. Et ils ne sont pas seuls non plus, comme ce buisson dans le désert. Ils sont entourés d'autres arbres. Certaines recherches ont montré que les arbres peuvent partager entre eux des ressources, ce qui les aide à survivre. C'est un rappel que nous avons besoin du Seigneur, la rivière de vie, et que nous avons besoin les uns des autres, pour nous entraider, nous soutenir, être présents, les uns, pour les autres.